Bonsoir. Le fantastique au risque de l'humour. Alors, il faut entendre le mot fantastique comme un synonyme d'imaginaire. L'opposé, nous dit Tsétan Todorov, du visible. Le fantastique, ce serait donc le produit de l'imagination, la représentation de mondes incertains qui n'existent pas. Bref, l'opposé de la raison. Dans l'histoire de l'art, le fantastique apparaît, selon l'historien Werner Hofmann, au XIIe siècle, au moment où les artistes sont confrontés au choix de représenter la réalité ou de la métamorphoser. Les enlumineurs du Moyen-Âge, bien sûr, Rembrandt, Piranèse, mais aussi Jacques Callot, sont les précurseurs du fantastique. Mais c'est au XIXe siècle que le fantastique prend un sens nouveau. Il devient genre littéraire avec Hoffmann en Allemagne et Nodier en France, mais aussi courant artistique qui partirait de Goya pour se développer tout au long du siècle avec l'essor de l'estampe et la naissance de l'illustration qui est liée, vous le savez, à l'essor de la presse et des livres illustrés. Et c'est à ce moment-là qu'apparaissent ce que Laurent Baridon, ici présent, appelle les dessinateurs, c'est-à-dire des dessinateurs ou des illustrateurs auteurs. Ces derniers dessinateurs vont se scinder en deux lignées généalogiques. La lignée de l'enfance d'abord, celle incarnée par Beatrix Potter, par Benjamin Rabier, Jean de Brunehoff et bien sûr Walt Disney. Et une autre lignée plus fantastique mais aussi plus sombre qui va de Granville à Topor en passant par Cubin et un auteur que l'on a un peu oublié mais que nous allons remettre à l'honneur ce soir, Maurice Henry, 1907-1984 pour le situer donc entre Granville et Topor. Une lignée de dessinateurs sombres et fantastiques donc, mais aussi étrangement humoristiques, de la catégorie humour noir, celle forgée par André Breton. Alors, le fantastique est-il compatible avec l'humour? La peur, l'inquiétant, l'étrange peuvent-ils véritablement se marier avec le rire? Et cette question, l'humour ne prend-il pas le risque de désarmer le fantastique? Et inversement. C'est ce que nous allons essayer donc de comprendre ce soir à l'occasion de cette rencontre intitulée « Le fantastique au risque de l'humour ». Avec nous, trois spécialistes du sujet. Laurent Baridon. Laurent, bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire de l'art à l'Université Lumière Lyon 2 et membre du laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes. Spécialiste de l'architecture. Vous êtes aussi spécialiste de l'histoire de la caricature et de la satire visuelle. Et vous venez de publier un essai stimulant de Granville à Topor, le fantastique des dessinateurs que je tiens dans la main dans la collection DITS éditée par l'INHA, vous le savez, l'Institut National d'Histoire de l'Art, une collection d'essais brefs et incisifs qui explore, pardon, cette collection, les questions que font naître les images, les objets ou les édifices, et dont je salue la présence ce soir de l'éditrice dans la salle, Katia, bienvenue. À vos côtés, Nelly Feuillorane, bonsoir. Nelly, chargée de recherche honoraire au CNRS et rédactrice en chef de Humoresque, dont je montre tout de suite la dernière couverture, le dernier numéro, le numéro 42. Humoresque, donc revue de recherche scientifique sur le comique, le rire et l'humour qui défend, je cite, la liberté d'expression avec les armes de l'humour. Vous êtes également spécialiste de Maurice Henry, dont vous dirigez avec Sam Milan le site internet officiel maurice-henry avec un Y. Je précise que l'œuvre de Maurice Henry sera bientôt présentée, je crois, au musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne dans une exposition sur le grand jeu. Sébastien Lepagelec, bonsoir. Vous êtes maître de conférences en histoire et en communication audiovisuelle à l'Université Paris 1, co-directeur de la revue Société et représentation. Société et représentation, le tout au pluriel que je présente ici, qui a donc sorti en 2017, c'est ça, un numéro spécial sur Topor. C'est dans cette revue que vous avez donc publié un texte sur Topor et Téléchat notamment, mais que vous avez aussi interviewé Nicolas Topor, qui est le fils de Roland Topor. Une interview extrêmement précieuse pour connaître le fonctionnement de l'artiste et son rapport à l'illustration. Alors tout de suite, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et de rentrer avec vous, Laurent Baridon, dans la question du livre que vous venez de sortir et un néologisme que vous avez forgé qui est repris en titre, De Granville à Topor, le fantastique des dessinateurs. Alors qu'entendez-vous, Laurent Baridon, par ce néologisme de dessinateur?
Ce serait donc la recherche au risque du néologisme, en quelque sorte, hein, pour parodier le titre de notre conversation. Je prends mon ordinateur tout simplement parce que je ne vois pas les diapositives que vous voyez. Et je vais essayer de présenter rapidement ce petit livre. Je ne sais pas s'il est très incisif, hein, vous lui portez beaucoup de crédit. C'est effectivement une collection très précieuse parce qu'elle permet de livrer une sorte de quintessence du travail en quelques pages. Mais en même temps, je crois que je n'ai pas tout à fait joué le jeu. C'est-à-dire que normalement, c'est presque le produit d'une conférence. Et en réalité, j'ai mis beaucoup trop de choses dans ce petit livre, je crois, ce qui le rend pas très incisif et finalement presque indigeste. Mais tant mieux si vous avez réussi à en tirer quelque chose.
Je tiens à dire que nous ne sommes pas d'accord. Hein.
Bon, très bien. Je cherchais pas une autre démentie, voilà. Que ça soit clair. Donc, qu'est-ce que j'appelle dessinateur ? Alors, ce néologisme, effectivement, on peut en discuter. Mais l'essentiel, pour rejoindre l'entrée principale de ce soir, c'est que j'avais été frappé, comme beaucoup avant moi, d'une sorte de convergence entre Topor et Granville. Granville qui m'occupe depuis pas mal d'années, c'est presque une obsession, ce qui va bien avec le dessin de Granville, d'une certaine façon. Et j'ai publié voilà des articles de ci, de là, mais aucun livre majeur sur Granville, ce que je ferai probablement un jour. En tout cas, c'était l'occasion d'aborder Granville dans un livre et d'explorer ces parentés, ces apparentements entre Granville et Topor. Et alors on va un petit peu vite si on peut revenir à la deuxième. J'ai été convaincu que je devais aborder ça. Je déplie un petit peu ce que j'ai fait puisqu'on est dans l'intimité de la recherche. Hein. Je me permets de dire un peu comment j'ai fait. Donc j'ai été convaincu qu'il fallait que j'explore ça en effet, en découvrant, parce que j'en ignorais l'existence, ce livre sur Granville qui est en fait une sorte d'anthologie hein, des images de Granville, publié en 1979 avec une présentation de Roland Topor. Et cette présentation est très développée, c'est pas seulement quelques paragraphes où Topor dit « bon, Granville, effectivement, je l'ai beaucoup regardé, ça m'intéresse, il est passionnant ». Non, c'est une fiction qu'écrit Topor sur sa rencontre avec Granville. Alors, je vais pas la résumer, mais et puis surtout, je vous laisse le plaisir de découvrir la chute de cette histoire qui est très savoureuse, mais simplement pour dire en quelques mots de quoi il s'agit, Topor, dans cette fiction, est écrivain, plus qu'illustrateur, et son éditeur lui propose de rencontrer un illustrateur pour illustrer son livre. Cet illustrateur, c'est Granville, qui est mort depuis longtemps, bien entendu, et à la fin, disons pour simplifier, parce que c'est plus complexe que cela, Granville refuse d'illustrer le livre de Topor. Voilà. Et dans cette petite fiction, il y a donc... il y a quatre personnages, en fait, parce qu'il y a une voyante polonaise, mais je la laisse de côté. Et il y a donc trois personnages principaux, un écrivain, un éditeur, et un illustrateur. Mais les rôles sont inversés, en quelque sorte, puisque Topor est devenu un écrivain. Et Granville, qui a voulu transcender son statut, d'illustrateur, est devenu finalement... du moins c'est ce que je pense, et c'est peut-être ce que pensait Topor, un auteur à part entière. Donc le mot dessinateur hein, correspond évidemment à cette confusion des genres qui est, à mon avis, une revendication de la part d'un certain nombre d'illustrateurs à proposer une illustration qui va au-delà de l'illustration littérale, qui est une illustration d'interprétation, en quelque sorte, hein, pour paraphraser ce qu'on dit de la gravure, et pour donc créer un discours par l'image, mais en parallèle à celui du texte. Voilà. Alors, juste quelques images pour illustrer ce que je viens de dire. Je vais essayer de ne pas être trop long. Donc là, vous voyez une page, de cette présentation de l'anthologie de 1979, composée par Topor, avec les illustrations de Granville qui sont découpées, recomposées, avec des systèmes d'interpolation, et vous voyez notamment l'interpolation de la figure de l'écrivain hein, qui apparaît au sein de l'illustration pour la fable de La Fontaine, La mort et le bûcheron. Et vous voyez que le personnage de l'écrivain, en effet, hein, se retrouve dans cette composition où est la mort. Alors, ça suit d'assez loin hein, le texte écrit par Topor, mais je pense que là aussi, dans cette disjonction du texte et de l'image, il y a quelque chose qui se joue hein, de l'ordre d'un manifeste ou d'une revendication ou d'un discours sur les discours que tiennent l'image et le texte. Alors, la question de l'humour noir, pour aborder aussi cela, puisque j'ai l'honneur de commencer, je pense que ça reviendra et vous en avez très bien parlé. La question de l'humour noir, elle est évidemment conjointe, présente également chez Granville et chez Topor, si tant est évidemment qu'on accepte cette définition de l'humour noir forgée par André Breton, qui est évidemment très contestable parce qu'elle semble tomber un peu du ciel. Néanmoins, si on explore ce qui peut être de l'humour noir, eh bien, Granville s'intéresse à des représentations de la mort humoristique, en particulier dès ses premières années, donc autour de 1830, avec ce voyage pour l'éternité. Je pense que vous arrivez à lire. J'espère que vous arrivez à... Ah non, alors la suivante, pardon. Voilà, j'ai oublié de vous demander de les passer. Et encore la suivante, ça c'était pour vous montrer comment ça fonctionnait. Le voyage pour l'éternité de 1830, vous avez un détail d'un omnibus, hein, puisque c'est la grande époque des omnibus, naturellement, les premiers omnibus, avec le détail hein, du titre que je vous laisse lire, qui est effectivement assez, assez humoristique, des paratouteurs, etc. Hein. Donc effectivement, on peut mourir à tous les instants, cette dimension métaphysique et morale qui est traitée ici sur le mode de l'humour. Granville n'est pas le seul, évidemment, à faire cela. Si on regarde du côté de la littérature, Naudier, que vous avez cité, Balzac, les Contes Bruns, et bien d'autres encore, hein, qui explorent cette veine noire, qui vient d'ailleurs, évidemment, du roman gothique hein, anglais, c'est britannique plus exactement, c'est évident. Granville n'est pas le seul à le faire, mais je crois, en première analyse en tout cas, qu'il arrive à forger des images d'une grande qualité parce qu'il a des modèles. La suivante, s'il vous plaît, c'est un des premiers, en effet, un des premiers, c'est pas le premier, mais c'est un des premiers à reproduire des caprices de Goya dès 1834, alors que on ne connaît que deux exemplaires des caprices en France à cette époque-là, il y en a peut-être plus, mais on n'en connaît que deux, celui que détient un ami du père d'Eugène Delacroix, qui les a connus dès 1816, les Caprices de Goya, hein, et un exemplaire à la Bibliothèque royale à l'époque. Et au début des années 1840, les lecteurs de la Bibliothèque royale disent « Mais vous n'avez rien d'autre de Goya ?» Parce que vraiment, la vogue est lancée. Donc, Granville, en effet, contribue fortement à faire connaître Goya. Est-ce que ce qu'il reproduit est son choix? Ça, c'est difficile à dire, mais en tout cas, il y a là incontestablement une source d'influence, disons-le, extrêmement, extrêmement forte. Voilà ces images. Donc, le Caprice de Goya à gauche, le dessin original de Granville, conservé au Musée des Beaux-Arts, et la planche mauvaise qualité de reproduction du magasin pittoresque. Voilà, je vais essayer d'être plus bref, mais dans ces apparentements entre Goya et Granville, il y a plusieurs choses, et une des choses qui m'a intéressé, que je développe assez longuement, c'est la question du mouvement, et ça, je pense que ça peut aussi intéresser Topor, parce que évidemment, c'est un homme aussi d'image animée, de télévision, et bon, là, c'est une hypothèse que je propose, hein, et qu'on peut donc discuter si toutefois ça vous intéresse, c'est qu'il y a, alors la suivante, il y a chez Topor comme chez Granville, y compris dans ses dessins, une narration qui est introduite soit par des images séquentielles, soit par des systèmes de composition en arabesque, soit par des métamorphoses progressives. Alors, je ne vais pas détailler énormément parce que ça prendrait trop de temps, mais vous avez ici le premier dessin, à ma connaissance, hein, publié de Topor en couverture de La Revue Bizarre qui avait consacré un numéro à Granville auparavant, hein, donc les choses se nouent assez, assez facilement. La suivante, s'il vous plaît. Et quelques illustrations de Topor qui montrent sa capacité donc à utiliser ses compositions serpentines, comme je le disais, et ses systèmes de métamorphose avec ici une dimension métaphysique puisque c'est l'âme du personnage, hein, l'âme si l'on veut, en tout cas l'esprit du personnage qui s'échappe. Et voilà ce que ça donne chez Granville. La suivante, s'il vous plaît. ces fameux rêves publiés par Édouard Charton, le directeur du magasin pittoresque juste avant la mort de Granville, en 1847, et qui vont devenir des dessins testamentaires, enfin dont Charton va faire des dessins testamentaires, contribuant à forger une légende noire autour de Granville, qui serait mort fou, hein, en bon artiste romantique. En fait, non, il n'est pas mort fou, il est mort d'une infection cérébrale qui l'a fait délirer, mais peu importe. Ce qui est important, c'est qu'en effet, il entre dans l'histoire, en quelque sorte, avec ce type de dessin. Le dessin original que vous avez ici, la suivante, s'il vous plaît. Et d'autres exemples de compositions métamorphiques, hein, de Granville, qui explorent le domaine du rêve, de l'hallucination, des psychotropes, hein, puisqu'il fait clairement allusion à l'utilisation du haschich autour du fameux club des haschichins, hein, où se trouvent Baudelaire, évidemment, Théophile Gautier, Balzac, Daumier, etc. Granville n'est jamais cité. Peut-être y était-il, peut-être n'y était-il pas, mais peu importe, ça l'a visiblement intéressé. Voilà, je pense qu'on peut passer assez vite sur les suivantes, peut-être juste pour le plaisir de les regarder, et je dis un mot sur évidemment le fait que Granville n'est pas le seul à faire ça à cette époque-là, qu'il prend modèle sur Töpfer qu'il a encouragé à faire des histoires en estampes, comme il les appelle. La suivante. Alors, un dessin original, parce qu'ils sont assez rares, les dessins originaux de Granville, enfin, ils ne sont pas rares, on en conserve beaucoup, mais simplement ils sont peut-être un peu moins connus. Donc je vous montre la façon dont il raconte l'histoire de la métamorphose sur son dessin préparatoire. Mais tout cela disparaît, bien entendu, dans l'illustration imprimée, car l'image doit se suffire à elle-même. Voilà, peut-être encore quelques images et je rends la parole pour favoriser le dialogue. Voilà, le détail de ces... Je pense que vous n'arrivez pas à lire, mais c'est une description de ce qui se passe, simplement. C'est plus un scénario, finalement, pour concevoir l'image, un scénario à la manière, évidemment, d'un dessin animé ou d'une émission de télévision.
L'historien a même vu dans Granville l'un des précurseurs du cinéma.
Oui, exactement. C'est Laure Garcin, je crois, qui a publié au milieu du XXe siècle, dans les années 50, un texte fort intéressant, en effet, sur ce plan, en prenant en compte ces images séquentielles ou ces images métamorphiques, puisque souvent, il s'agit de métamorphoses chez Granville. Je termine d'un mot, la suivante, s'il vous plaît. La rivalité de la plume et du crayon qui est partout chez Granville, y compris évidemment sur la page de titre d'Un autre monde, un ouvrage qu'il signe seul, mais qu'en fait il n'a pas rédigé seul, hein, mais il cache le nom de l'écrivain. La suivante, on peut s'arrêter sur cette image et terminer même avec celle-ci, puisque c'est évidemment une illustration conçue par Max Ernst pour une réédition donc du fameux Un autre monde, hein, le livre vraiment manifeste de Granville, avec un texte de Pierre Restany en introduction, excusez du peu. Et cette illustration de Max Ernst est évidemment très importante, puisqu'elle contribue à montrer que Granville traverse le surréalisme, non sans vicissitude, on y reviendra peut-être, puisqu'André Breton l'exclut en quelque sorte, hein, de son panthéon, hein, de sa généalogie du surréalisme, mais il traverse quand même le surréalisme, et il arrive jusqu'au début des années 60, 1963 donc, c'est-à-dire, si je ne m'abuse, un an après que Topor ait reçu le prix Granville.
61,
deux ans, merci. Après que Granville, Topor ait reçu le prix Granville de l'humour noir, puisqu'en effet, il existait un prix de l'humour noir et qui portait le nom de Granville. Ce n'est pas un prix qu'a fait Flores, ça, hein, on ne peut pas dire.
C'est un peu désespéré, je crois.
Hein, oui, c'est un peu.
C'est assez important de le noter parce que ça reviendra justement voilà.
Et le titre, c'était Les masochistes.
Voilà.
J'ai une question à vous poser, Laurent. C'est parce que vous datez la naissance des dessinateurs à Granville, mais particulièrement à un travail de Granville qui est Un autre monde. Mmh. Pourquoi Un autre monde qui est assez tardif, hein, c'est l'un de ses derniers livres.
Oui, c'est 1843 et il décède jeune, hein, en 1847. Donc si on considère qu'il est mort trop jeune, et vraiment il est mort, il n'avait pas 50 ans, c'est un tournant dans sa carrière en réalité. C'est le moment où il s'émancipe de plus en plus de cette pratique. Les lois en plus restreignant la liberté de la presse font que de toute façon il est obligé de se tourner vers l'illustration de livres, sauf à faire du dessin de presse un peu insipide. Et donc ce livre, en effet, est un tournant. C'est pas un testament, c'est un tournant en réalité. Sa carrière pouvait encore être très longue. Donc oui, Granville, mais évidemment, c'est pas le seul. Mais vous comprenez, puisqu'on parle de l'intimité de la recherche, que j'ai été frappé par ces coïncidences, ces rapprochements factuels, y compris avec ce prix que dont j'ignorais jusqu'alors l'existence, qui lie Granville et Topor, et je me suis dit, ben, qu'est-ce qu'il y a entre les deux et qu'est-ce qui les rapproche? Et ce qui les rapproche, c'est la disjonction du texte et de l'image qui ouvre la voie au fantastique.
Et bien justement, entre les deux, il y a aussi un auteur qui s'appelle Maurice Henry. Auteur que l'on a un peu oublié aujourd'hui, que l'on va redécouvrir, je l'espère, parce qui est passionnant. Peut-être, Nelly Feuillerane, peut-être nous dire quelques mots sur Maurice Henry, ceux qui ne le connaîtraient pas, et nous dire si cette définition de dessinateur, ce néologisme, lui convient.
Alors, c'est un peu difficile de répondre avec certitude. D'une part, parce que Maurice Henry était effectivement quelqu'un qui écrivait et qui dessinait. Enfin, il aimait autant l'un que l'autre. Il était excellent dessinateur et poète. Enfin, et sa prose, même quand il est reporter dans la presse ou quand il écrit des petits textes, même par exemple dans Bizarre, quand il écrit un petit texte, ça va mal, dans un numéro où Topor est présent d'ailleurs. C'est bien écrit, quoi. C'est beau. Donc, ce sont des gens qui... J'ai un peu de mal à faire, comme vous le dites, la distinction entre, d'un côté, dessinateur et lui-même, et auteur, enfin, auteur-écrivain, parce que lui-même, finalement, ne le fait pas tellement. Mais ce qui est assez remarquable chez Maurice Henry, c'est qu'il réussit à transgresser chacun des genres. Quand il fait du dessin... Il raconte quelque chose qu'il faut mettre en mots quelquefois pour comprendre, pas seulement des calembours, mais aussi des jeux vraiment de langage. Et par exemple, quand il fait à la fin, dans Bizarre d'ailleurs, des palindromes graphiques, figurés, on se demande de quoi s'agit-il, quoi. Donc il y a toujours une idée de jeu de un peu transfrontalier entre ces deux genres. Donc j'ai un peu de mal à répondre. Il est ça, mais effectivement, ça peut être une manière de lui donner les deux qualités.
Parce que comme Topor, il a été touche-à-tout. Hein. Il est journaliste, il commence sa carrière en tant que journaliste, contre l'avis de son père.
Qui lui-même était directeur d'un journal.
Qui lui-même, c'est peut-être pour ça. Mais aussi illustrateur, il a fait quelques incursions aussi dans l'animé, je crois.
Oui, tout à fait. Il a fait des bandes dessinées, il a fait énormément de choses du cinéma, des mises en scène. Il a travaillé avec l'Herbier, il a travaillé avec des gens tout à fait Hans Richter, avec des gens tout à fait intéressants. C'est un peu la guerre qui a arrêté sa carrière de cinéaste, mais il s'intéressait beaucoup à ça. Du côté de la bande dessinée, il n'a pas fait grand-chose, un petit peu par obligation alimentaire, mais à chaque fois, c'est toujours nourri de ce qu'il a, des expériences qu'il a eues dans la presse. Parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une progression dans ce qu'il écrit. Il est reporter. Et mais qu'est-ce qu'on fait quand on est jeune reporter? On traite les chats écrasés. Et là, il voit pas seulement des chats écrasés, mais aussi des choses absolument horribles, des meurtres, du sang, etc. Enfin, quand il rentre chez lui avec du sang sous les semelles. Et ça ressort aussi dans des textes. Voilà.
Et dans ses illustrations aussi. C'est là où on va toucher tout à l'heure, on en parlera, de l'humour noir. Peut-être s'est-il nourri aussi de cette dimension-là.
Oui, tout à fait. Oui, mais ça remonte vraiment aussi... Alors, c'est une petite chose que je voulais pas trop aborder aujourd'hui, mais c'est le fait que parallèlement au surréalisme qui paraît en 1924, deux ans après, il rencontre les jeunes du Grand Jeu, enfin avec qui il forme le Grand Jeu, et donc une mouvance parasurréaliste, enfin, surréaliste on va dire plutôt. Et là, c'est un univers extrêmement complexe parce que jouant avec la mort. Par tous les moyens, y compris les drogues et des situations extrêmes. Donc, il y a aussi, dans son expérience vécue, et à l'époque, il n'est pas une humoriste. Il est apprécié pour son humour. Ils font beaucoup d'humour, très peu de tâches d'ailleurs, dans ce groupe du Grand Jeu. Mais l'humour est quand même très présent, et beaucoup plus présent qu'il ne sera jamais chez André Breton.
Oui, Grand Jeu, 1926, hein, je crois, la
voilà, 1926, ouais. Pour Maurice Henry, 1932, il se termine environ vers 1933. Et après, avec la mort des deux leaders, René Daumal et Roger Gilbert Lecomte, qui, au moment de la guerre, en 1943 et 1944.
Alors, Sébastien Le Pajolec, on parle de touche à tout, hein, finalement, avec Maurice Henry. S'il y en a bien un au XXe siècle qui a vraiment touché à tout, c'est Topor. On a l'impression que cette catégorie, finalement, de dessinateur a presque été forgée pour lui.
Alors, c'est vrai que ça correspond très bien. Parce que Topor, il a fait du dessin de presse, alors pas très longtemps. Il excellait, faut dire, pas vraiment dans ce domaine. C'est pas ce qui l'intéressait le plus, mais il a aussi, comment dire, évidemment, bon, fait toutes ses œuvres dessinées qu'on connaît, mais il a travaillé aussi avec Jérôme Savary au théâtre. Il a évidemment fait de la peinture. Il a été proche d'un certain nombre d'artistes. Il a fait de l'affiche de cinéma. C'est lui, par exemple, qui fait l'affiche de l'Empire des Sens, l'affiche française ô combien provocante. On pourrait y revenir. Et puis, évidemment, il a été une figure télévisuelle. Moi, c'est vrai que le Topor que j'ai d'abord connu, parce que je suis pas un spécialiste de Topor. Topor, c'est d'abord des souvenirs d'enfance, de télévision, de quelqu'un qui a cette... ce visage gourmand, cette voix rauque et raillée, ce cigare, parce qu'à l'époque, on pouvait encore fumer. Il était très proche de Jean-Michel Ribes, hein, notamment. Et donc, c'était une figure comme ça. Et puis, donc après, j'ai Téléchat, sur lequel j'ai travaillé. Mais aussi, comment dire, et même, je dirais, encore plus pour les images animées, La Planète Sauvage. L'auteur, c'est Lalou, René Lalou, 73 de mémoire, puis il fera avec la personne avec qui il avait travaillé sur sur Téléchat, Henri Xeneux, ce réalisateur belge, Marquis, là aussi une œuvre assez provocante. Et puis c'est un écrivain, c'est-à-dire que c'est quand même l'auteur, alors on a connu tous ses ouvrages réédités au point maintenant chez Wombat en partie, mais au point virgule, de mémoire d'un vieux con.
D'un vieux con,
ouais. Voilà, ses recettes de cuisine, enfin, un peu quelque chose qui le rapprocherait d'un des proches finalement, parce qu'il était édité dans les mêmes collections, il y a des effets de collection aussi dans l'imaginaire, mais on oublie, et Buchet-Chastel avait ressorti, des textes magnifiques qui renvoient vraiment, alors vous parliez en introduction de Naudier, tous ces auteurs, on pourrait même penser avant à Potocki aussi, et d'un imaginaire, moi évidemment quand j'ai lu Le Locataire Chimérique, qui est donc servi d'adaptation, qui a été adapté par Roman Polanski pour le film Le Locataire, mais le livre est un très grand texte, enfin le texte est un très grand livre plutôt, c'est vraiment une œuvre splendide de maîtrise, donc c'est vrai que son côté touche à tout, j'allais dire, il en a un peu pâti à un moment en termes de légitimation, avec ce côté télévisuel. Et puis, avec le temps, on s'aperçoit qu'en fait, c'est ce qui permet régulièrement d'avoir, je dirais, des vagues Topor de retour. Moi, c'est vrai que il se trouve une anecdote personnelle, que quand j'étais étudiant, au moment où je faisais ma thèse, qui n'avait rien à voir avec Topor, mais j'ai fait des piges à Charlie Hebdo, dont il avait été proche d'un certain nombre de personnes, notamment Volinsky, et je faisais de la critique de cinéma. Et j'ai un des seuls articles que j'ai écrit qui n'était pas de la critique de cinéma, c'était parce qu'il se trouve que j'avais une amie qui était directrice de la communication à ce moment-là du Musée d'Art Moderne de Strasbourg, et donc elle m'a convié à Strasbourg. On allait en avion avec un journaliste de le magazine L'Œil, je m'en souviens, et on allait pour rendre compte d'une exposition.
Très bon magazine.
Voilà. Au tournant des années 2000, je crois, un peu après, où il y a eu une grande exposition au Musée d'Art Moderne de Strasbourg. Voilà, qui avait fait ça, et on était là avec des journalistes locaux, c'était marrant. Donc, je me souviens déjà qu'il y avait quand même quelques problèmes, parce qu'il y avait des œuvres qui étaient jugées pornographiques et qui avaient dû être mises avec un système de cache pour que tout le monde puisse pas les voir. Donc voilà, le texte, l'image, j'ai pas évoqué, mais tous les ouvrages illustrés. C'est un grand illustrateur. Les bibliophiles s'arrachent aujourd'hui. Alors, j'ai plus en tête tous les ouvrages, mais évidemment, les travaux dans la revue Bizarre, même dans des bas de page, hein, avec, il était très proche de Jacques Sternberg aussi, donc.
Il y a quelque chose qui me frappe chez Topin. Vous l'avez un peu évoqué, mais c'est que il y a quelque chose d'absolument 19e siècle dans son dessin. Topor n'est absolument pas contemporain. Il dessine à la manière presque de Granville, sans être Granville. Hein. Il y a deux univers très différents, mais on est très loin de la ligne claire, par exemple, du XXe siècle.
C'est ce que dit Willem dans un entretien où il a été interviewé par Philippe Garnier, je l'avais noté là. Il raconte, Willem, comment, selon lui, Topor n'était pas un vrai dessinateur de presse qui vit de l'adrénaline de l'actualité. Et je cite Willem, son adrénaline, il la sécrétait tout seul, et puis sa provocation était plus symbolique et onirique que politique, il travaillait sur les métamorphoses du corps, son dessin rappelle le beau dessin du XIXe siècle, celui de Granville, rien à voir avec la tendance de l'après-guerre, de celle de Bosque et de Chaval. Je trouve ça vraiment, de la part de Willem, c'est vraiment extra de voir la compréhension des journalistes entre eux, enfin des dessinateurs entre eux.
Sébastien, vous voulez réagir ?
Oui, au sens où, enfin, moi, je suis assez d'accord avec ce que vous dites, hein. Mais il y a une espèce de disjonction. Laurent Baridon parlait tout à l'heure à propos de Granville, de dissociation. Il y a une espèce de disjonction qui fait, à mon avis, tout le mystère qui fait qu'on se penche encore sur Topor. C'est que d'un côté, il y a effectivement ce trait et des correspondances, des échos, et puis dans le même temps. L'angoisse qui sourd comme ça de l'œuvre de Topor, elle est quand même très contemporaine. Elle est très contemporaine des traumatismes de la Seconde Guerre mondiale qu'il a magnifiquement raconté. Évidemment, j'ai un trou de mémoire, mais dans cette pièce de théâtre, je me souviens qu'elle avait été jouée avec Isabelle Carré, où il est
sous la table,
merci beaucoup, et que vraiment je vous encourage à découvrir, qui est un texte sublime et qui renvoie évidemment au petit enfant juif qu'il était et qui a dû se cacher à 5-6 ans comme un certain nombre d'enfants pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis après, une angoisse qui est une angoisse aussi, je dirais presque psychanalytique, enfin de nos sociétés contemporaines. Moi, j'avais été, j'ai plus s'il a un titre ou pas, mais cette fameuse dent en forme de falaise, c'est des dessins et c'est à la fois très contemporain. Et ça joue avec une esthétique aussi du 19e siècle. On pourrait aussi parler des œuvres d'Odilon Redon. C'est des choses qui nous hantent, je veux dire. Et c'est peut-être ça aussi, dessine auteur, parce que finalement, dessine, on n'est pas dans l'imagerie. On est dans quelque chose. C'est pas quelqu'un qui était dans ce qu'on appelle le vitz, je crois, enfin l'esprit, le dessin d'esprit, voilà, il est d'où d'ailleurs dans le dessin de presse.
Il a
dessiné dans la presse, il y a eu des choses, mais c'est pas ça qui l'intéresse, j'ai l'impression, enfin moi je ne suis pas spécialiste.
On peut même se poser la question, on se posera la question tout à l'heure, vous permettrez pardon de vous la poser, de savoir si c'est vraiment drôle, d'ailleurs on parle plus de non-sens ou d'absurde parfois. Qu'est-ce qui relie les trois? Là vous avez compris, on va se concentrer sur ces trois, on pourrait parler de tellement d'autres illustrateurs, mais ces trois-là vont nous permettre de mettre en avant, je veux dire, le fantastique et l'humour. Qu'est-ce qui relie les trois? Il y a des choses qui traversent leurs œuvres. Ils connaissaient les œuvres respectivement des prédécesseurs, mais apparemment assez tardivement. Il y a l'hybridation, par exemple. Qu'est-ce qui fait que ces trois peuvent se réunir finalement, partagent des choses en commun? Nelly ?
Ben, moi, il me semble qu'il y a d'un côté la poétique de la satire de Granville, parce que moi, je repense encore à ce que vous avez montré en premier, le voyage pour l'éternité, ce qu'il a montré. Et là, on est vraiment dans une satire sociale. La même chose avec les métamorphoses du sommeil, enfin,
du jour.
Voilà, du jour. Donc en 28. Et là, on a une satire sociale. Donc ça, c'est drôle. Enfin, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'humour. Après, chez Topor, on a au contraire une espèce d'absence totale de satire, je trouve, parce que c'est quelque chose de beaucoup plus. Enfin, quand il dit quelles sont vos sources d'inspiration, il répond le sang, la merde, le sexe. Bon, et puis finalement, tout se ramène au corps. C'est le corps.
On est plus dans une angoisse existentielle chez Topor que chez Granville, qui ça correspond peut-être au siècle aussi, la satire sociale. On est en pleine période de la presse illustrée.
Je le vois pas tout à fait comme ça, non. Mais ça fait rien. On peut en discuter ultérieurement. Et dans le cas de Maurice Henry, au contraire, on est dans une espèce il y a une sorte de poétique de la cruauté chez Topor. Et chez Maurice Henry, on est dans quelque chose de complètement, la vie, la mort, on échappe aux frontières. Quoi. L'humour, ça sert à faire exploser les frontières de tout ce qui nous semble raisonnable, de tout ce qui semble cadrer le quotidien. Donc on est dans les trois cas, on est dans une explosion de la raison. Quoi.
Laurent ?
Alors, je dirais, parce que bon, c'est quand même des hypothèses, mais je dirais que Maurice Henry, je connais moins bien, mais entre Topor et Granville, il y a un rapport au corps qui est extrêmement fort alors c'est vrai que chez Topor, c'est existentiel, c'est métaphysique, ça procède d'une époque, d'une histoire personnelle, mais qui est celle d'une époque, etc. Donc c'est tout à fait clair. Mais chez Granville, c'est présent aussi, parce que la trajectoire de Granville, que je connais mieux que celle de Topor, elle va effectivement des choses un peu amusantes, et ça devait être très amusant de reconnaître un duc en grand-duc, hibou grand-duc, en train de, bon, voilà, d'accepter les faveurs d'un père qui prostitue sa fille. Enfin voilà, ça devait être assez savoureux, effectivement, et drôle. Mais derrière, il y a quand même, quasiment en permanence chez Granville, parce qu'il est dessinateur de presse, un commentaire sur la violence d'une époque, d'un régime en particulier. C'est-à-dire que c'est quand même des pages épiques. Il y a même des scènes qui sont franchement allégoriques, enfin qui pourraient être du Delacroix, parce que bon, voilà, à ce moment-là, ça devient plus du tout ironique ou humoristique, et peut-être ça devient un peu ennuyeux. Justement, c'est mieux quand il arrive à conjuguer les deux, mais c'est quand même d'une violence inouïe. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, comme souvent dans la satire, et il y a un niveau qui peut faire rire, et puis après, quand on rentre dans le détail et quand on comprend de quoi il s'agit véritablement, bah, c'est quand même des affaires de massacre, de répression. Daumier n'est pas le seul à concevoir des images aussi fortes que la rue Transdonain. Hein. Il y a vraiment beaucoup d'images très fortes chez Granville, mais qui passent aussi par un travail sur le corps, sur l'hybridation qu'on retrouve chez Topor d'une façon plus absurde, qui remet davantage peut-être en question la nature humaine même. Chez Granville, c'est peut-être moins fort de ce point de vue-là, mais je crois qu'ils ne sont pas très éloignés dans ce mélange d'humour, pour moi en tout cas, ils ne sont pas très éloignés dans ce mélange d'humour et de satire. Souvent grinçante et parfois humoristique.
Oui, alors c'est vrai que Topor, par la force des choses, à la fois par tempérament, mais aussi par médias à sa disposition, qui n'avait ni Granville et pas totalement Henry non plus, cette multitude de supports fait qu'en fait, il y a plusieurs Topors qui se superposent. C'est-à-dire que si on parle, moi je ne suis pas un spécialiste de l'œuvre dessinée de Topor, enfin ça a beaucoup été, que ce soit dessiné à travers des œuvres uniques qui sont aujourd'hui exposées, mais aussi qu'on retrouve dans plein de, par exemple j'en ai une chez moi, une lithographie qu'on m'avait offert, qui est en fait c'est la galerie Le Long qui lui avait demandé une lithographie pour la Coupe du Monde de 1982, une affiche qui n'est d'ailleurs pas son œuvre la plus... oui, on sent que c'est pas sa passion. Hein. C'est pas celle... Mais là encore, cela dit, la tête, la coupe et la tête se fondent, enfin, sur l'hybridation et la transformation du corps, il y a des choses. Mais ce que je veux dire, c'est que, donc, il était aussi un... C'est quelqu'un, je pense, qui aimait les projets. Donc, il avait du mal à dire non, quand même. Il était tout le temps... Il en est d'ailleurs un peu mort, un peu de fatigue, à mon avis.
Il en avait besoin pour...
Voilà, il y avait une dynamique. Et ce que je veux dire, c'est que, donc, sans doute... je vous fais crédit qu'un topor satiriste en dessin, et effectivement, on a dit le dessin de presse, c'est pas vraiment son domaine, mais pour avoir travaillé sur Téléchat, par exemple, alors certes, qui est une œuvre, c'est difficile, collective, mais c'est quand même lui le scénariste. Hein. Téléchat, c'est une satire, mais radicale. Je regardais, là, je revérifiais, parce que j'ai un trou de mémoire tout à l'heure sur mon téléphone, les saisons, c'est entre 83 et 86. Mais il faut voir les trois saisons qui ont été faites, le portrait de la société française de ces débuts des années Mitterrand, de la télévision. C'est-à-dire que c'est même prophétique, ce serait exagéré, mais ça anticipe totalement le discours sur la publicité, le discours sur la privatisation des chaînes de télévision, puisque tout est finalement transformé, etc. Alors, à côté, il y a des choses qui vont être plus proches de ces dessins, avec un sens de l'absurde, où le rire amène à l'angoisse, c'est l'invention du gluon. Hein.
Les objets inanimés aussi, tout ça.
Ah bah les objets inanimés. Moi, dans le travail que j'avais mené.
Les objets animés, pardon.
Oui, animés, oui, pardon. Oui, dans le travail que j'ai mené, en fait, il y avait l'idée. Au tout début, je voulais travailler vraiment. J'avais regardé plusieurs fois ces trois saisons et faire un peu une analyse de contenu. Puis très rapidement, je me suis aperçu que c'était pas le plus intéressant. C'est assez fastidieux qu'on pouvait, enfin. N'importe qui pourrait le faire, à vrai dire, et que voilà, avec les thèmes, on les avait à peu près. Donc, je m'étais penché quand même sur les conditions de production et tout l'historique, ce qui avait rendu possible, à un moment quand même étonnant, donc de ce programme sur trois saisons, qui était quand même diffusé à la fin de Récréa 2. Il faut quand même imaginer Récréa 2, on avait des dessins animés, puis après, on avait Téléchat. Et en fait, après, j'avais fait des recherches sur Internet très fastidieuses, très longues, retrouvées sur des forums, des témoignages, parce que le programme a été diffusé sur plusieurs chaînes, il revient, il avait même été diffusé sur Arte le matin. Et en fait, il y avait une espèce sur ce programme, il y a un discours qui est un discours de légitimation culturelle, de c'était très bien, c'était
culte. Une œuvre culte.
Voilà, mais bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas...
Mais vous c'était montrez dans votre recherche que, justement, elle a divisé et qu'elle a même fait peur, cette œuvre-là, Téléchat.
C'est ça qu'on voit dans le souvenir, alors de spectateurs, de téléspectateurs qui ne sont pas forcément des téléspectateurs, qui s'expriment donc sur des forums qui n'ont parfois rien à voir, hein, des forums sur l'automobile, et il y a des pages sur Téléchat, parce que l'espèce de nostalgie... Il a vraiment fallu passer des journées entières de recherche sur Google pour retrouver avec des noms, etc. Et donc, cette espèce de postérité où, en fait, ces adultes qui ont entre 30, 40, 50 ans et qui témoignent de quand ils avaient 7 ou 8 ans, alors que moi, je l'avais vu un peu en décalé déjà, j'ai dû le voir quand j'avais une quinzaine d'années. Et en fait, ces gens-là étaient terrifiés. Un téléphone qui parle pour eux. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que la réception un peu, un peu figée d'une œuvre qui a de grande qualité par ailleurs, qui est très drôle, un imaginaire très fort, se moque des dessins animés japonais, des super-héros en légumes, enfin, il y a plein d'idées. Il y avait effectivement une angoisse de ces objets qui parlaient, de ces gluons qu'on voyait avec une voix très métallique. Le voir à l'âge adulte, c'est pas le voir à 6-7 ans. Et c'est vrai que, donc là-dessus, il y avait quand même angoisse et satire. Et c'est vrai que la satire qui n'est pas dans ces dessins apparaît beaucoup dans cette, je sais plus combien il y a d'épisodes, mais trois saisons. Voilà.
Alors, Topor, Henri Granville font partie aussi quelque part de l'histoire de la littérature, de l'écrit. Et pourtant, s'il y a bien une catégorie qui a eu du mal à les intégrer, à les accepter, ce sont bien les littéraires et notamment les poètes. Baudelaire contre Granville, Gautier aussi, Breton va avoir du mal avec avec Granville, hein, qui fait partie à un moment de la généalogie surréaliste, mais qui va vite s'écarter, que l'on ne retrouve pas ni dans l'anthologie pardon de l'humour noir, ni dans le surréalisme et la peinture. C'est pareil pour Henri Xonneux, c'est pareil pour Roland Topor, qui vont être écartés. Pourquoi, selon vous, cette distance des littéraires ?
Je crois que c'est tout à fait dans la lignée du surréalisme. C'est un élitisme exacerbé. Plus on est un tout petit nombre à comprendre quelque chose, et plus ça a de la valeur. Je suis très méchante de dire ça, mais ben, on a un peu l'impression... Et d'ailleurs, Maurice Henri était très mal à l'aise, en fin de compte, parce qu'il était tout le temps un petit peu sur la réserve. Il était passionné et fasciné par Breton, mais il avait toujours une espèce de pas de côté. Enfin, on lui reprochait son petit sourire ironique. Il avait tout le temps une distance. Il ne pouvait pas adhérer complètement à ses jugements parce que lui, il était en plein dans la production pour le grand public, dans sa presse. Donc, il était tout le temps entre deux mondes, le grand public de son travail alimentaire, mais qui peu à peu est devenu un travail qui l'a passionné parce qu'il est passé de reporter, donc de l'écriture, au dessin. D'une part, parce que ça lui permettait de gagner mieux sa vie et ça lui prenait moins de temps. Donc, c'était une affaire qui était gagnante. Mais il n'en avait absolument pas parlé aux surréalistes. C'est Giacometti qui, un jour, a surpris dans Marianne un dessin. Il dit, mais ça, c'est Henri, mais ça, c'est Maurice Henri. Et il en a parlé aux surréalistes. Et alors là, Breton a pris une distance extrêmement hautaine. Il n'a pas voulu le reconnaître. Alors que je pense que... Il y a dans le dessin de Maurice Henri une mine de représentation qui mériterait sans doute le label.
Laurent Paridon.
Alors, moi, je pense que c'est vraiment un problème de statut et d'authorship, quoi, enfin, d'autorialité, comme on dit en français. Je crois vraiment, j'ai pas beaucoup d'éléments, mais je crois vraiment que les illustrateurs comme Granville qui veulent signer des livres seuls, ça déplaît fortement aux écrivains. Parce que c'est quand même un renversement. Alors, il y a les écrivains qui veulent pas être illustrés, comme Flaubert, ça c'est clair, mais il y a tous les écrivains qui sont illustrés et qui n'ont pas du tout envie qu'un illustrateur se mette à signer des livres tout seul. C'est un renversement quand même qui est assez scandaleux. Et je crois que ça motive des critiques vraiment acerbes de la part de Théophile Gautier et de Charles Baudelaire. Et c'est pourtant des nécrologies, hein, donc on pourrait quand même faire la paix après l'enterrement, mais pas du tout. Hein, Granville est enterré une deuxième fois et bien par des plus grands auteurs du moment. Donc c'est quand même une méchanceté. Alors bon, c'est vrai que Baudelaire a l'habitude d'encenser tout en descendant, mais quand même, c'est quand même assez spectaculaire. Et je pense que vraiment, c'était une revendication qui ne pouvait pas passer. Est-ce que ça se reproduit au moment du surréalisme ? Parce que je pense que les raisons sont plus complexes, en effet. Mais ça pose un problème ontologique, finalement, de ce que dit l'image par rapport au texte, de ce qu'elle suggère de l'imagination. Et c'est ça, hein, le propos de Granville, c'est de dire les images parlent à l'imagination autant, si ce n'est mieux, que les textes. Et c'est pas facile à admettre pour un écrivain.
Oui, c'est compétition. Oui, Sébastien.
Oui, alors je ne suis pas spécialisé sur ces questions, mais de mes lectures, l'impression que j'ai quand même va dans le sens de ce que dit Laurent Baridon, c'est-à-dire... c'est une question de légitimité, de champ culturel en fait. Hein. Je vais pas reprendre les analyses de Bourdieu, mais au final, on s'aperçoit quand même je vais prendre l'image. C'est indépendamment de des œuvres de ces trois dessinateurs, mais c'est quand même l'essor de l'image industrielle qui est mis en... je repense aux travaux de Philippe Hamon sur l'image, je me souviens, où il recensait, je ne sais plus dans quelle nouvelle, de si c'est un cœur simple ou de Flaubert, où il recensait tout ce qui était, toutes les images qui étaient dans le récit. Et il y en a un certain nombre. Et en fait, ils veulent que les images restent dans le récit. Ils ne veulent pas que les images se mettent à écrire. Et d'une certaine façon, on retrouve ça Donc, c'est une question presque catégorique, mais comme il y aura par rapport aux romans populaires, ou aux romans feuilletons, ou à un certain nombre de... Et pour le cinéma, j'y viens parce que je dois participer à un colloque là, à Angoulême sur BD et intermédialité. Et c'est quand même frappant. Moi, je travaille, alors on est très loin, mais sur le western italien, en objet délégitimé, c'est bien. Et j'ai amassé, des centaines et des centaines de critiques, puisque le western italien, c'est à peu près 400 films distribués en France, entre 64 et 78. Et une critique qui revient souvent, c'est de la bande dessinée. Et en fait, on pourrait dire, voilà, c'est des livres d'illustrateurs, de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de segmentation, mais comme il y a eu pour la science-fiction ou le fantastique même en général. Et c'est toute l'histoire, c'est des objets d'histoire culturelle, c'est-à-dire qui sont les passeurs, comment se produisent, les lieux, les revues qui ont participé à cette légitimation, par la traduction, par la création de revues ou de supports. Et d'ailleurs, là-dessus, on parlait de Goya tout à l'heure, mais il y a quand même aussi toute une culture, ce qui est marrant pour Topor, qui a des origines d'Europe de l'Est, centrale, mais britannique. Qui est quand même très importante, où il y a déjà des illustrateurs qui écrivent, enfin, si on veut même remonter à William Blake.
Le fameux nonsense que vous évoquez dans votre essai.
Oui, alors c'est... là non plus, je ne suis pas spécialiste pour reprendre la phrase, mais ça va bien, parce que les illustrateurs font tout, évidemment, on ne peut jamais être spécialiste de tout ce qu'ils font. Donc on est tranquille, mais cela dit, le nonsense, oui, alors le nonsense britannique, en réalité, c'est une histoire très complexe, et là aussi largement construite, comme l'humour noir. Et c'est d'ailleurs, on peut s'interroger quand même sur l'humour noir d'André Breton comme un phénomène de reprise du nonsense britannique. Ça me semble quand même assez... Enfin, une piste qui doit être explorée. Alors oui, il y a un auteur en particulier qui m'a paru intéressant, c'est Edward Lear. Peut-être on a une image, si on peut revenir à mon PowerPoint, si ça vous est possible, parce que c'est effectivement, ça commence à apparaître dans les années 1840, ce sont des petits poèmes qu'on appelle...
Je montre en même temps, oui, qui est très étonnant.
Voilà, ce qu'on appelle des limericks, hein, du nom de la ville irlandaise, où paraît-il, on se mettait à déclamer des choses en ayant beaucoup bu certains soirs, tout ça est de la légende, finalement, mais c'est fort sympathique. Et donc ce livre du non-sens, hein, A Book of Nonsense, qui est paru à partir de 1846, montre alors des images uniques, sans phénomène narratif, sans métamorphose, sans séquentialité, mais qui joue d'une disjonction et en même temps d'une forme de convergence du texte et de l'image. Mais on comprend bien que c'est au lecteur de créer le sens à travers le non-sens et de projeter son imagination pour interpréter ce que dit l'image. Donc il y avait un homme âgé du Vésuve qui étudiait les œuvres de Vitruve. Quand les flammes ont brûlé son livre, il avait trop bu, hein, cet homme du Vésuve, pour traduire à la louche. Donc on voit dans l'image la bouteille, on voit le Vésuve, on voit le livre de Vitruve. Et ça ne fournit absolument aucune explication sur le fait qu'en buvant, on peut brûler un livre aussi ancien.
Granville le connaissait-il ?
Alors Granville, on a quasiment pas d'archives. Hein. On a ce qui est dans les bibliothèques municipales de Nancy. On a quelques archives très précieuses, comme le scénario, bien sûr, d'Un autre monde, hein, dont on est sûr qu'il l'a écrit. Il n'a pas écrit le livre, mais il a écrit le scénario. Voilà, on a des lettres, on a plusieurs manifestes de Granville qui se positionnent par rapport aux graveurs, notamment, hein, les bourreaux des bois, comme il les appelait. Donc on a quelques textes, mais par contre, on ne sait rien. Et c'était vraiment un homme extrêmement discret, c'est-à-dire qu'on sait qu'il a participé au fameux bal masqué de 1832, si je me souviens bien, où il y a tous les grands artistes de l'époque, et Granville fait tout le décor des murs. Tous ces artistes sont représentés en animaux, hein, donc à la mode de Granville. Donc, si seulement on avait ne serait-ce qu'une vue générale de ça, mais on n'a rien. Donc, on sait, pour vous dire à quel point on sait très peu de choses. Quand il est décrit, c'est un homme qu'on oublie parce qu'il décide tout le temps dans son coin, il ne dit jamais rien. Est-ce que c'était vrai ? On ne sait pas. Est-ce qu'il écoute seulement ce qui se dit autour de lui ? On n'en sait absolument rien. Qu'est-ce qu'il a lu ? Ben, les ouvrages qu'il a illustrés, c'est pas rien. Swift, La Fontaine, etc., etc. Mais sa culture, on ne sait pas. Donc le non-sens britannique et même la satire anglaise, on a quelques exemples qui montrent qu'il a regardé des estampes anglaises, qu'il connaissait Rowlandson, qu'il a copié des compositions, comme tout le monde le faisait. Hein. Ce n'était pas, c'était pas du plagiat à proprement parler. Mais voilà, il faut reconstituer pièce à pièce les choses. Donc le non-sens chez Granville, franchement, je n'en sais rien. Ça ne ressemble pas tellement quand même à Edward Lear. Parce que justement, il y a cette narration qui peut paraître lourde à côté d'Edward Lear, hein, mais qui est quand même... Voilà. Par contre, ce qu'on sait, c'est que Lewis Carroll a regardé Granville, et notamment Un autre monde. Donc là, on peut montrer les deux autres images. Je pense que ça suit immédiatement. Voilà, et donc une illustration d'Un autre monde à gauche, et les illustrations conçues par Lewis Carroll lui-même pour son livre, avant que le livre soit illustré par John Tenniel, avec des images plus, disons, consensuelles. Voilà, mais autre, la suivante, s'il vous plaît, juste pour vous montrer l'exemple que citait Nelly, la bataille de Cartes. Dans Alice, évidemment, hein, qui est inspiré incontestablement. Mais c'est-à-dire qu'il faut comprendre que le texte est inspiré de l'image de Granville. Donc ce sont les illustrations de Granville qui ont nourri le texte de Lewis Carroll. Voilà. Donc on peut considérer en effet que le nonsense de Lewis Carroll est lié à Granville, mais je ne suis pas sûr que Granville ait voulu faire du nonsense.
De toute manière, les éditions circulaient beaucoup en Europe. Paradoxalement, on a beaucoup moins de circulation actuellement. Il y a beaucoup de circulation des œuvres, mais il y a une pléthore d'ailleurs. À l'époque, il y en avait un peu moins et ça circulait mieux. Et je voudrais, pour revenir sur la notion de dessinateur, parler, puisque je suis aussi là pour parler de Maurice Henry, parler du bouquin qui a été réédité, le bouquin de Maurice Henry, qui est donc, à mon avis, pour le coup, un dessin de dessinateur. C'est donc un ouvrage à jour, et toutes les histoires se font avec une lecture, voilà, et avec un petit texte de Maurice Henry. Je ne sais pas trop comment montrer. J'avais pas pensé du tout. Comme vous voulez. Je n'avais pas pensé en parler dans le détail, mais peut-être que l'occasion se présente. Et donc ça, quand André Breton a vu le livre, il a dit c'est très particulier. Enfin, il était très dérangé. Je pense que il savait pas trop où classer Maurice Henry. Et là, après, il savait pas plus, je crois.
Je voudrais qu'on revienne au fantastique.
Oui, mais volontiers.
Et que je vais vous demander peut-être, non pas de le définir, parce que c'est très compliqué de définir, mais qu'entend-on par fantastique dans les arts visuels ?
Alors, la question est un petit peu trop vaste pour ma compétence, mais moi, ce que je voudrais peut-être dire, c'est que entre les trois artistes, Granville, Topor et Maurice Henry, je vois deux thèmes communs, deux thèmes que j'ai un peu développés avec des images. Je peux peut-être, enfin, je ne sais pas si on a encore le temps ou si ça prend trop de temps, mais il me semble qu'il y a la mort et les métamorphoses et les jeux graphiques, les recherches formelles. Je pense que sur ces deux points, on a vraiment une convergence. Alors complètement, comment dire, original pour chacun. Ce que fait Granville, c'est pas ce que fait Maurice Henry, ni Topor, etc. Ça, c'est bien clair. Mais, par exemple, j'avais quelques images peut-être si Corinne peut les montrer. Bon, j'avais effectivement montré la couverture du voyage de pour l'éternité, et surtout le fait que dans ce voyage, en fait, c'est une reprise des danses macabres connues depuis le Moyen-Âge, etc. Et l'œuvre de Topor qui est en fait... ce que je voulais reprendre, c'était la citation de Balzac qui dit que... parce qu'il se connaissait avec Granville dans le journal La Silhouette, où il se voyait dans la rédaction, où Balzac écrit « Monsieur de Granville a donné de la bêtise aux hommes, de l'esprit aux animaux, et il vient de donner de la gaieté à la mort. » Et j'ai l'impression qu'avec ça, on définit l'animalisation et en même temps cette espèce de satire qui reprend les danses macabres avec cette volonté de trouver une justice de toute manière qui met tout le monde au même niveau un jour, le mort saisit le vif. Donc il y a d'une part ça. Chez Topor, la mort, elle est là, omniprésente. Là, on a comment... comment Granville présente son anticléricalisme et comment le squelette en fait s'extirpe de son cercueil en tirant la langue, il refuse d'être mis dans sa tombe. Et c'est évident que c'est pas du goût de Granville, c'est pas du goût de Topor et c'est pas du goût de Maurice Henry. C'est tous des anticléricaux notoires. Ensuite, il se trouve que chez Topor, il y a peu de squelettes. Là, il y a ces squelettes qui sont habillés, mais c'est chez Topor, on a quelquefois des crânes comme celui-ci qui date des années 60 avec l'illustration du manuel du savoir mourir de Ruellan. Il y a aussi ensuite une image absolument extraordinaire. Et ça a été fait pour Libération en 73 au procès Barbie. Peu d'éléments à charge, que de la terre et le vent. Je trouve que c'est cette image d'une force vraiment étonnante. Et puis enfin, un autre exemple d'efficacité graphique de Topor. Donc ça, c'est vraiment une marque aussi chez Topor. Voilà, next, tout est dit. Ça, c'était en 79, dans Sandwich, un supplément hebdomadaire à la Libération. Et ça, c'est une première chose. Chez Maurice Henry, ça, c'est le soldat inconnu. Il en avait assez de la mort. Ça date de 33. Il faut dire que Maurice Henry, né en 1907, a été absolument traumatisé par la guerre de 14, par les cadavres, etc. Enfin, la mort, il la connaît, la guerre, il la connaît très près. Donc, il sait déjà dire feu et sigi. Et puis, le dernier, son mari est ressuscité. Donc, voilà. Et puis, chez Maurice Henry, il y a une recherche de la mort, il y a une fascination pour la mort, qu'on a aussi chez Topor, mais d'une manière beaucoup plus secrète et beaucoup plus masquée. Chez Maurice Henry, on a la recherche de la mort par le suicide. Et là, si tu veux montrer la image suivante... Alors, c'est souvent minutieusement préparé, généralement par un bricolage plus ou moins astucieux, mais le suicide est souvent raté. Pour tout vous dire, celui-là, à mon avis, il ne va pas y arriver. Et ensuite, il a aussi utilisé d'autres moyens pour montrer les squelettes. Par exemple, avec la radiologie, voilà, veux-tu remettre ceci où tu l'as trouvé ? Donc là, on a un mélange de fantaisie et d'irréalisme et en même temps d'inscription dans le temps avec les techniques. Et l'image suivante, où on a aussi, en dehors des jeux avec les fantômes et les squelettes, on a une banalisation réelle de la mort, et en particulier avec cette autopsie incongrue où le médecin légiste rapporte un peu de travail à la maison. Ça, c'est dans Marianne en 1936. Donc voilà, ça c'est le premier point sur la mort, les points communs. Maintenant, si vous me permettez d'aller plus loin, je vais expédier le reste. Il me semble que le deuxième grand thème, ce sont les métamorphoses et les jeux graphiques, la recherche formelle. Granville avec les métamorphoses du vide, voilà le suivant. Donc il y a cette animalisation qu'on connaît bien, surtout par exemple dans la silhouette. En particulier donc dans les métamorphoses du jour en 1828. Donc c'est une animalisation à visée satirique. L'homme est bon, on a dit suffisamment de choses sur ça, mais on a aussi tout est animé en fait. On a aussi un anthropomorphisme, par exemple avec les fables de La Fontaine, le suivant, le chêne et le roseau, je trouve très très intéressant. Et puis, on voit que chez Topor, par exemple, les métamorphoses sont celles très concrètes qui sont de corps perpétuellement agressés. On ne sait pas d'où viennent les agressions. Les transformations sont contre nature. Par exemple, j'ai pas fait l'image, mais il y a une femme qui tricote. C'était un petit dessin pour le Nouvel Obs. Et en tricotant, on voit que le fil va sur la tête de la voisine à côté et utilise en fait ses cheveux. Enfin, il y a une espèce de vase communicant entre le tricot qui avance et puis la voisine qui devient chauve. Chez Maurice Henry, on a beaucoup la mythologie comme intervention de fantaisiste. Par exemple, la mythologie grecque intervient beaucoup. Là, on a par exemple les sirènes, le Minotaure, très important.
Qui se tuera en couverture de Bizarre.
Exactement. Le suicide du Minotaure. Donc, voilà. Et ça, c'est en 48. Le suicide du Minotaure, c'est en 55. Les choses se préparaient. Hein, c'est assez intéressant. Je continue très vite. Chez Granville, pour les recherches formelles qui se trouvent effectivement en abondance chez Granville, je ne vais pas rentrer dans le détail. Effectivement, il y a toujours une recherche d'associations analogiques qui sont favorisées d'ailleurs par le sommeil. Et comme cette femme qu'on a vue déjà grâce à Laurent. Et ensuite, on trouve cette technique chez Maurice Henry avec la danse du rêveur. Ça, c'est en 48. Et une autre recherche formelle intéressante avec l'autophagie. Et ce dessin a eu le grand prix à Knokke-Zoute, grand prix mondial à Knokke-Zoute. Ah oui, il faut savoir quand même que Topor a eu son prix de l'humour noir, Granville de l'humour noir en 1961. Maurice Henry l'a eu en 75. Parce qu'il faut savoir que Maurice Henry, d'abord, était parti de France et à la manière des jeunes du grand jeu qui ne voulaient pas entrer dans la littérature comme les surréalistes, ne voulaient pas devenir des vedettes, il ne voulait pas répondre aux questionnaires, etc. Il préférait rester dans son coin secret, ce qui fait qu'on l'a peu connu finalement et un peu oublié, y compris pour les gens qui étudiaient le grand jeu. Donc ça, c'est encore une recherche assez intéressante. Et puis, il a fait quelque chose de beaucoup plus étonnant, c'est cette illustration des palindromes. Ça aussi dans Bizarre. Ça, c'est en 57.
Alors, vous avez parlé des rêves à l'instant.
Absolument.
Et du coup, ça m'a fait une passerelle parce que vous avez interviewé Nicolas Topor qui dit, je crois, dans l'interview que son père se réveillait pour noter ses rêves. Ça, c'est quelque chose qui nous ramène au fantastique aussi et peut-être à l'humour après, on va voir. Mais c'est important, les rêves, chez Topor ?
Ah, vous me posez une question qui...
Une colle.
Non, pas une colle, j'ai toujours des choses à dire, mais qui supposerait quand même que j'ai une maîtrise du sujet qui... Je voudrais pas vendre quelque chose qui n'est pas. Ce qui est clair, c'est que par rapport à on parlait de thèmes, de motifs, moi, ce qui me frappe quand même dans l'œuvre de Topor et qui renvoie effectivement à cette dimension onirique... c'est qu'en fait, je pense à cette dent falaise, par exemple, ou à d'autres images très connues. Vraiment, on est en prise avec l'imaginaire, c'est ça qui est vraiment très impressionnant. Et on ne sait pas si c'est finalement le sens psychique, presque nos névroses ou le cerveau mis à nu, je dirais. Parce que c'est pas des mots d'esprit, mais c'est l'esprit. En fait, il y a quelque chose de... Il rentre dans notre boîte crânienne, dans notre boîte noire, si je puis dire. Et si c'est l'idée et l'angoisse qui est première, ou si c'est le motif, la forme qui devient angoisse. Vous donniez un exemple tout à l'heure sur Topor d'un dessin où des oui. filles comme ça partaient. Mais en fait, quel est le... Ce qui est vraiment fascinant chez Topor, c'est que... Alors, dans toute la diversité des supports, il y a quand même aussi des périodes de son œuvre. Il y a des choses moins intéressantes aussi. Hein. Mais dans ce qui reste comme ça et qu'on expose aujourd'hui et dont qu'on réédite ou qu'on redécouvre parfois, eh bien, il y a cette... oui, est-ce que c'est le motif qui, d'une certaine façon, en explorant le motif, il découvre, lui, ce que le motif peut... vers quoi ça ouvre, ou est-ce que c'est l'angoisse qui va se trouver canalisée dans un motif? C'est ça que je trouve assez, assez fascinant, et de la part de quelqu'un qui est quand même, on le disait tout à tout, mais je me souviens avoir vu il y a des documentaires, on le voit chez lui, Nicolas Topor en parle à moi, il y a une très grande bibliothèque, hein, c'est quelqu'un d'une culture, d'une très grande culture, très moderne au sens, je pense aux travaux de Bernard Lahire, le sociologue ex-proche de Bourdieu, qui l'a fait sur les comment dire, l'idée que ça va du polar de série noire à des choses très très pointues, Topor. Donc il y a une espèce de curiosité, voire on parlait d'autophagie tout à l'heure, mais de boulimie. Alors vous disiez effectivement, et je pense que je souscris à cette hypothèse que vous avez dit plutôt dans la soirée, c'est-à-dire que L'angoisse, elle est aussi même au quotidien, dans le quotidien de Topor. Il ne peut pas s'arrêter. Alors déjà, parce qu'il a, à mon avis, un train de vie qui n'est pas un train de vie luxueux, mais qui n'est pas quelqu'un de prévoyant. Hein, je crois que Nicolas Topor, il m'en avait un peu parlé. Voilà, hein, c'est quand même, c'est compliqué d'être le fils de Topor, l'enfant de Topor. Hein, c'est quelqu'un qui, voilà, les histoires d'impôts, tout ça, ça. Donc, en fait, il prend des commandes. C'est, en fait, il y a une difficulté avec le monde réel, quand même, hein, avec un certain nombre de contraintes et des angoisses. Donc, vous voyez, le rêve, c'est quelqu'un qui ne se disciplinait pas vraiment, Topor. On peut pas dire que il était, voilà, et il est très antithétique quand même, hein, d'une certaine façon, parce que c'est quelqu'un qui aime bien, il y a des bandes, hein, avec Savary, ça a été important, avec Jean-Michel Ribes, parce que j'ai oublié d'évoquer Palace aussi, dans lequel il a été, voilà, merci Bernard, tout un, et en même temps, comment dire, il y a quelque chose de très solitaire dans ses œuvres et même dans sa pratique. On disait tout à l'heure qu'il était, comment dire, il y a une partie satire, mais une partie assez peu politique au final, peu de dessins de presse. En même temps, il est quand même un enfant des années libertaires. Alors, pas de la manière de ciné. En fait, il est à mi-chemin entre GB et Wolinski, de ce point de vue-là. C'est-à-dire GB qui serait un peu plus quand même engagé et Wolinski un peu dégagé. Je dirais, ce qui ne veut pas dire qu'on ne parle pas de l'époque, mais un peu détaché comme ça. Et puis, sur l'onirisme, il est quand même à la fois... ce n'est pas quelqu'un qui va parler psychanalyse, Topor. Mais je veux dire, est-ce que ce rapport au rêve, ce n'est pas d'abord un rapport, je dirais, non pas tant à la psychanalyse qu'à la littérature, un rapport de lecteur et de spectateur, c'est-à-dire d'image. Il est peuplé d'images et de mots. Comment dire, et que ce soit de Granville, d'Henri, d'Oscar Wilde.
Alors, tout ça, je voudrais revenir sur l'articulation du fantastique et de l'humour, puisque là, on voit qu'il y a une explosion derrière. Le fantastique, c'est l'art du bricolage, finalement. C'est la rencontre, l'explosion de l'imaginaire et du réel. L'humour, c'est aussi ça. C'est Baudelaire, hein, qui parle d'explosion à propos de l'humour. Bergson, lui, parlait de rencontre de la mécanique, du mécanique sur le vivant. Laurent Baridon, c'est deux termes à coller l'un à l'autre. Est-ce que ça fonctionne, finalement? Quand on parle du fantastique humour, humoristique. On a entendu, hein, devant Maurice Henry, on a entendu le public rire. Mais en même temps, c'est grinçant, c'est désespéré parfois.
Ben, je crois que c'est une vraie question, enfin, définitionnelle. Hein, on le voit bien. Ça peut faire rire, ça peut aussi ne pas du tout faire rire. Non pas seulement parce qu'on serait concerné particulièrement par le sujet, mais simplement parce que, comment dire, c'est plus ou moins... plus ou moins métaphysique en réalité. C'est-à-dire que là, finalement, quand on a ri, peut-être on a ri du comique de la situation, justement plutôt graphique et un peu moins du fond. Et dans un deuxième temps, évidemment, on se dit que voilà, c'est évidemment pas très drôle. Mais en même temps, bien sûr,
Balzac parlait de profondeur philosophique à propos de Granville.
Oui, bon, après Balzac, il était évidemment chargé d'écrire les textes en marge des dessins de Granville, donc il allait en dire du bien, et comme c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, c'est évident qu'il a dit des choses très bonnes, mais voilà, là on est dans un contexte aussi éditorial. Non, mais je pense aussi, c'est aussi notre réaction par rapport à la mort, par rapport à tout ce qui peut nous arriver, fatalement, il vaut mieux en rire, comme on dit, hein, comme dit l'expression populaire. Non, c'est cette rencontre, elle est... pour moi, elle est extrêmement difficile à décrire, et en réalité, humour noir peut très bien convenir comme être complètement artificiel, le non-sens également. En réalité, je pense qu'il faudrait plus... Je trahis un peu Granville, mais il faudrait plutôt utiliser les outils de la critique littéraire pour arriver à forger des catégories un peu plus fines, à mon avis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je me sens très démuni, je vous l'avoue, à catégoriser... Et je pense qu'on l'a bien vu en même temps avec tout ce qu'on a dit. Ce sont des dessinateurs, des artistes qui ont des périodes, qui travaillent dans des contextes qui sont définis, qui prennent des commandes, qui répondent. Enfin voilà, c'est pas des artistes non plus qui sont libres de faire absolument ce qu'ils veulent. Alors bien sûr, à l'intérieur de ces cadres-là, ils arrivent à avoir une indépendance qui est très spectaculaire et qui fait que ce sont des fortes personnalités qui les distinguent dans l'histoire de l'art, puisque c'est de là que je parle. Mais en même temps, voilà, il y a beaucoup de choses différentes dans la production de ces mêmes dessinateurs. Je crois que on peut pas les voilà. Donc moi j'ai du mal à dire voilà, ça c'est de l'humour noir, ça c'est du non-sens, etc. Ça c'est de l'humour, ça c'est du fantastique.
Sébastien, une dernière réaction?
Oui, tout à l'heure vous avez évoqué quelque chose qui me semble alors avec important, c'est-à-dire la question des circulations. C'est-à-dire qu'il faudrait aussi recontextualiser à une échelle européenne, voire, alors, je dis pas pour Grandville, mais je pense, par exemple, à Topor, il y a quand même un certain nombre d'artistes italiens qui sont quand même sur l'angoisse, etc. Donc, c'est un vaste champ. Je pense qu'il serait plus facile, presque, de les définir, entre guillemets, négativement, parce qu'ils ne sont pas. C'est-à-dire, par exemple, par rapport aux fumistes de la Belle Époque, où il me semble quand même que c'est assez différent. C'est-à-dire que moi, mais c'est peut-être personnel, mais en fait, quand je vois ces dessins, je ne rigole pas. Ça veut pas dire que je peux avoir un... Alors c'est peut-être ce que disait aussi Laurent Baridon, un sourire, quelque chose, un étonnement. Mais après, ça ouvre et j'y vois effectivement quelque chose qui est des potentialités créatives qui, comment dire, créent des réseaux de sens et qui d'ailleurs sont, enfin, je veux dire, l'évidence amène une sorte de béance en fait. C'est-à-dire que là-dedans, Falaise, par exemple, j'y reviens parce que pour moi, ça a été vraiment un choc. Mais on pourrait parler alors. Là, ça l'éloigne de Grandville et d'Henri, enfin, de ce que j'en connais en tout cas, mais le rapport à l'érotisme, l'affiche de l'Empire des Sens, c'est reprendre le Mont Fuji pour en fait faire, quand on connaît le film, qui va ressortir bientôt, je vous engage à le voir, quand même assez violent, hein, et pour en faire un corps de femme, dans toute sa sexualité la plus brute, c'est quand même... Oui, on le voit, on l'a compris, mais une fois qu'on l'a compris, le dessin, le sens résiste encore d'une certaine façon. Et ça renvoie peut-être à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'esprit, c'est-à-dire ce sont des gens qui dessinent ou écrivent, pour ce que je connais, parce que je connais plus le Topor écrivain, des choses qui sont dans nos cerveaux, quoi, ce que je disais tout à l'heure.
Alors je vais si vous avez des questions, je vais vous passer le micro. Je rappelle juste avant donc la parution de Grandville à Topor, le fantastique des dessinateurs de Laurent Baridon, donc dans la collection D de l'Institut national d'histoire de l'art, que vous trouverez ensuite. Également Société et représentation, qui était le numéro 44, Topor, artiste multimédia. Voilà, cet artiste touche à tout dont on a parlé tout à l'heure.
Oui, juste brièvement, c'est pour alors ce dossier qui est maintenant on fait des énormes dossiers, mais à l'époque on faisait des dossiers un peu plus petits. Donc bon, je passe sur mon texte sur Téléchat, mais il y a le texte d'Isaac Goldberg, qui rapproche de Cubine. Voilà, Alexandre Hervaux, qui est quand même l'introduction est signée Bertrand Tillier, mais le dossier était le dossier de Bertrand Tillier et d'Alexandre Hervaux. L'idée avait moi à l'époque j'étais simple auteur, j'étais dans le comité de rédaction, mais j'étais pas encore co-directeur. Et c'était Bertrand Tillier qui avait poussé pour qu'il y ait ce numéro. Effectivement, Alexandre Hervaux qui montrait, le rapport, enfin, la dimension, le lien avec les arts contemporains.
Oui, avec.
Et puis, il y avait aussi Stéphane Mazurier, qui est un historien de Charlie Hebdo, qui avait fait sa thèse sur Charlie Hebdo des années 70, qui est là-dedans. Et je crois qu'il y a un dernier texte, un des premiers.
Il y a Laurent Gervérot sur l'homme
qui ne riait pas. Oui, ce qui est plus un témoignage. Oui. Mais avant, le tout premier texte, avant Mazurier.
Christophe Gautier, faire feu de tout bois, Topor et les industries culturelles.
Voilà. Et ça, c'était aussi intéressant sur la diversité. Il évoque notamment la réception assez compliqué de la planète sauvage, par exemple. Donc voilà, l'idée, c'est un petit dossier, mais qui essayait à un moment où on parlait plus trop de Topor, c'était avant que l'œuvre dessinée ressorte, hein, qui essayait un peu D'où le titre, d'ailleurs, qui est peut-être pas... c'est multimédia, c'est
multimédia,
ça,
multimédia, artiste multimédia.
Bon, c'était un peu dans l'époque, les mots. Je suis pas sûr que le titre soit... Mais en tout cas, c'est l'aspect multi-support, vraiment, qui est intéressant, qui est, sur lequel... c'était, avait insisté ce numéro.
Où l'on apprend que Topor était proche de Spoerry, l'artiste contemporain, et que Spoerry disait qu'il fallait prendre le mot humour pour Topor, le mettre entre de gros guillemets. Voilà. Donc, effectivement, un dossier passionnant et humoresque au pluriel. Donc, le dernier titre paru, le numéro 42, sur le rire et la bêtise, dont Nelly, vous êtes donc rédactrice en chef. Avez-vous des questions? Je peux faire tourner le micro.
Oui, moi j'aurais une question et une remarque aussi sur, par rapport à ces trois illustrateurs écrivains. C'est par rapport à cette inquiétante étrangeté quand même qui est propre à Granville. Même si Topor, Maurice Henry, ils sont beaucoup plus proches déjà de par le fait qu'ils soient du XXe siècle. Il y a une poétique chez Granville qu'il n'y a pas forcément chez Topor et chez Maurice Henry, où le rire sardonique grinçant est quand même plus présent à mon sens. Mais chez les trois, il y a quand même une inquiétante étrangeté qui fait surgir le malaise aussi. Et ça, j'aimerais aussi que vous puissiez peut-être en dire un mot.
Qui veut répondre à l'inquiétante étrangeté de Freud?
En quelques mots, pour peut-être insister sur un aspect dont on n'a peut-être pas assez parlé, là aussi, c'est l'usage des psychotropes et des hallucinogènes. Alors, je ne sais pas si ça explique l'inquiétante étrangeté, probablement pas, puisqu'il s'agit quand même d'autre chose, puisque le terme renvoie au lexique freudien, clairement, et donc à la psychanalyse. Mais quand même, cette ouverture de l'imagination, voire de l'inconscient, elle est quand même favorisée par l'usage de drogue. La question, c'est qu'on n'a aucune preuve que Granville en a jamais pris, puisque, encore une fois, comme je l'ai dit rapidement, il n'est pas signalé dans les listes des membres, entre guillemets, du club des hachichins. Donc, on ne sait même pas s'il a... Voilà. Mais par contre, on sait qu'il connaissait ses expériences, qui étaient faites, je vous le rappelle, pour... tester l'effet de ces drogues, la confiture verte, sur l'esprit, les esprits particulièrement imaginatifs des écrivains et des artistes. Donc, on avait choisi des sujets spécifiques. Et donc, c'était dans l'air du temps. Je pense qu'en tout cas, pour lui, c'est avant tout, je reviens à des questions statutaires de légitimation, une façon de montrer que, avec ou sans confiture verte, on peut faire aussi bien que Théophile Gautier. Et voilà. Donc, je reste sur ma ligne et je suis désolé de ne pas répondre.
Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé aussi, alors qui renvoie, enfin, sur le versant un peu psychanalytique, bon, je ne saurais pas trop quoi dire, mais... on n'entend pas. Ouais. Oui, donc vous disiez, parce qu'on ne vous a pas enregistré, vous disiez que vous pensiez plutôt l'inquiétante étrangeté à travers l'insolite, la singularité, et oui, ça me semble tout à fait juste. Moi, j'amènerais aussi un autre aspect, c'est-à-dire que sans politiser à outrance ces artistes, au sens d'une politisation idéologique, je veux dire, mais il y a quand même une dimension à chaque fois fortement contestataire. Pas contestataire, mais contestataire de l'ordre du monde. Enfin, on parlait du lien au surréalisme. Il y a eu un compagnonnage des surréalistes après Paul Éluard, etc., Aragon, ultérieurement avec le Parti communiste. Mais au-delà de ça, c'est quand même, déjà chez Jacques Vacher, un ordre du monde. C'est fait, il y a une dimension de refus, en fait, sans l'encarter. Et d'une certaine façon, chez Topor aussi. Alors, pas d'un refus au nom, en soutien à une idéologie, d'où d'ailleurs, il est d'ailleurs là, le rire de Topor. C'est un rire de presque fataliste, je veux dire, même de la personne Topor, comme je le disais. Il a été assez souvent médiatisé. L'œil qui frise un peu. Il y a quelque chose de, pour reprendre une expression qui avait été faite pour un album de Nino Ferrer, le chanteur, il avait créé le mot la désabusion. Et il y a ça chez, chez Topor. Mais moi, je trouve que je dis pas que c'est l'essence, le cœur de ce qui relie les trois, mais cette dimension contestataire et l'inquiétante étrangeté, elle vient contester un ordre, créer du discontinu, là il y aura une continuité du monde, des hiérarchies, des choses à leur place, chaque chose bien à sa place, et d'ailleurs ces hiérarchies des supports, on parlait d'illustrateurs pour les dessinateurs, pour l'écrivain, etc., ils viennent bouleverser un petit peu ça, alors pas toujours en ayant forcément conscience, et c'est pas un projet, mais voilà, moi c'est ça que ça m'inspire un peu, l'inquiétante étrangeté.
Merci beaucoup. Merci Nelly Feuer-Johan, merci Laurent Baridon, merci Sébastien Lepagelec. Ben, je vous invite à nous retrouver et poser vos questions autour du verre, de l'amitié, et puis de retrouver les livres également, puisque les trois que nous avons présentés sont tous à côté. Voilà, je vous remercie. Merci.